14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge, si vous nous rejoignez, saison 2, avec une nouvelle organisation, mais toujours évidemment Elisabeth Assayag qui m'accompagne.
Présente.
Et notre coach, c'est Laurent Chauhin, aujourd'hui DRH de Mazar. Et toujours évidemment Céline Le, oui. 3921.
Oui, pour nous appeler, hein, c'est 50 centimes la minute. Vous pouvez aussi nous écrire Twitter, ça marche très bien, on a déjà pas mal de réactions, on les lira tout à l'heure, avec @ ou hashtag Europe 1. Puis vous pouvez aussi nous écrire pour participer à l'émission, tout simplement proposer votre candidature pour la France Bouge Academy en nous écrivant l'adresse suivante e1-lafrancebouge, tout accroché, @europe1.fr.
Vous savez tout, ou presque, aujourd'hui, gros plan sur les souvenirs, ceux qu'on ramène de vacances. On a choisi de chercher des idées originales et françaises, bien sûr, et vous allez voir qu'une fois de plus, il y a de quoi faire. Les vacances, c'est synonyme de carte postale, mais celles que nous allons envoyer aujourd'hui ne sont pas vraiment comme les autres. Bonjour Jérôme Fiesbach.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Woody. Ceux qui parlent anglais ont compris, évidemment, vous fabriquez des cartes en bois, mais pas n'importe quel bois. Racontez-nous d'abord comment vous est venue l'idée de lancer Woody, je crois que c'est en 2017.
C'est ça. En fait, déjà avant la carte postale en bois, on est des grands fans de la carte postale parce qu'aujourd'hui, on a quand même une baisse de ce marché depuis plusieurs années. Vous avez les emails, vous avez évidemment tous les réseaux sociaux et les SMS.
Les moyens modernes, on va dire.
Les moyens modernes, voilà. Et donc, nous, on est fans de la carte postale, on est fans de pouvoir envoyer des pensées, des sentiments sur un support qu'on garde et qu'on va conserver, qu'on peut offrir. Donc, ensuite, le bois, pour nous, c'était quelque chose de très différent. C'est une technologie c'est une technique qui est un petit peu rare.
Et puis surtout, vous étiez vous déjà dans l'univers du produit et vous travailliez déjà avec un fabricant qui avait justement cette particularité, c'était de travailler le bois.
Exactement. Donc en fait, on aimait beaucoup, beaucoup son produit. Bon, lui, il faisait beaucoup de choses il faisait de la personnalisation en gros. Et l'idée de lancer cette marque était vraiment de faire quelque chose d'utiliser son support en bois, d'en faire quelque chose de moderne, en quelque chose d'urbain, quelque chose de poétique. Et aujourd'hui, notre marque donc existe et voilà.
Votre marque existe, mais elle est quand même très, très originale parce qu'il y a quand même un énorme marché des cartes postales aujourd'hui, Elisabeth, encore.
Oui, hein, c'est un marché qui existe encore. Hein. Ce sont environ 200 entreprises en France, souvent des entreprises familiales d'ailleurs. Il y a deux piliers dans ce secteur. Il y a Editor et la carterie. Je parle des cartes postales classiques, cartes postales en bois. Editor qui a fait office de sauveur de beaucoup de petites entreprises, notamment dans les années 80, les entreprises historiques. Vous avez aussi MG Édition. C'est une entreprise familiale qui existe depuis 25 ans et elle vend autour de 4 millions de cartes postales par an.
Donc l'idée, si je résume, c'était de garder le support écrit, mais de le faire vivre avec son époque, tourner aussi, et ça c'est important, vers l'écologie.
Exactement. C'est vraiment, encore une fois, ce support de bois, esthétiquement, il amène quelque chose de complètement différent à la carte postale. Le bois est très fin, on peut le tordre, ça ne se casse pas. Et on arrive à faire une impression qui est quasiment comme une impression sur du papier. Techniquement, c'est très joli.
Elles sont magnifiques.
Oui, elles sont avec nous dans le studio d'Europe 1. Vous pouvez les voir évidemment sur europe1.fr. Comment vous dites, comment vous faites pour élaborer cette carte? Parce que vous dites que ça ressemble à du papier, mais c'est plus souple et plus résistant qu'une carte classique.
C'est ça. Alors, on a beaucoup de secrets de fabrication.
N'allez pas nous les donner.
Non, ça c'est vraiment une partie sur laquelle on est assez discret. Parce que c'est une technique qui est assez rare. En France, elle est très rare et dans le monde, elle est très rare aussi. On a souvent beaucoup de gens qui viennent nous regarder et savoir comment on fait. Donc là, sur cette partie, je ne vais pas trop m'épancher. Mais...
Et vous dites la carte, finalement, c'est un peu le vinyle.
Exactement. J'adore cette analogie parce que je trouve que la carte postale est...
On y revient.
Oui, exactement. Vous avez aujourd'hui le MP3, il est partout. Et pourtant, vous avez un marché du vinyle qui est en constante augmentation. parce que les gens ont besoin d'avoir un objet qu'ils vont garder, qu'ils vont collectionner. Nous, la carte postale, c'est exactement cette carte postale en bois, c'est exactement ce qu'on a voulu faire par rapport au SMS que vous recevez pour votre anniversaire, et puis le lendemain, il disparaît. Alors que cette carte, là, vous la posez sur votre étagère, sur votre table, vous la suspendez, voilà, elle se garde, et un an après, 5 ans après, vous l'avez toujours.
Avec le bois, on peut utiliser n'importe quel stylo pour écrire ?
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est le mieux, c'est un stylo à billes.
Et le feutre, ça doit baver un petit peu peut-être ?
Ça bave un petit peu, mais le stylo à billes, c'est parfait.
Le coach, Laurent.
Oui, vous êtes un serial entrepreneur, Jérôme, troisième entreprise au moins, je crois. Par contre, c'est très intéressant parce qu'en réalité, vous réagissez plus comme un artiste. Quand on vous entend, vous avez parlé de poésie, d'esthétique. Justement, ces cartes, quand on les regarde, elles sont très jolies. Et je crois que vous travaillez avec des artistes qui vous aident à les fabriquer. Comment vous les trouvez ? Comment vous fonctionnez avec
ces
artistes ?
C'est, là aussi, j'essaye de faire, d'avoir une approche pas trop cartésienne, assez émotionnelle. On a des artistes français, évidemment.
Marché au coup de cœur.
Oui, au coup de cœur, exactement. On a des artistes asiatiques, américains, européens. Et aussi, j'ai des artistes qui sont très connus, qui ont plus de 500 000 followers sur Instagram, mais aussi des artistes qui ont 110, 120, 120 followers. Donc,
et vous avez déjà des collectionneurs ? Il y a des gens qui sont vos clients ?
Je ne sais pas encore. J'ai été contacté récemment par une société américaine qui est une sorte de plateforme. Apparemment, il y a beaucoup de collectionneurs. Je suis en train de voir avec eux si on peut faire quelque chose. Mais j'ai déjà quelques fans sur Instagram.
Jérôme, vous faites, je crois, arrêtez-moi si je me trompe, hein, 250 000 euros, c'est de chiffre d'affaires.
Ouais.
Vous dites, dans 3 ans, on vise les 3 millions.
Oui.
En faisant quoi ? En vendant à l'étranger, notamment ?
Bien sûr. Alors aujourd'hui, notre plus grand marché est le marché français, mais pas que.
Parce qu'on est attaché à la carte postale, nous, Français ?
Parce qu'il y a des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, qui aiment l'écriture, qui aiment écrire sur du papier, sur du bois. D'autres pays sont moins sensibles. Mais effectivement, on parle d'un marché de 23 milliards de cartes postales. C'est les chiffres qu'on a à peu près. 23 milliards de cartes postales. Bah, s'il y a une ou deux marques de cartes postales en bois, on peut imaginer qu'on peut... Voilà, décemment, qu'on peut prendre 1/1000 de ce marché, sans trop de prétention. Et voilà, il faut aller à l'international.
J'ai dit tout à l'heure que vous étiez finalement quelqu'un qui vit avec son temps. Aujourd'hui, on se rend compte que nos préoccupations environnementales sont de plus en plus présentes. Tout est fait ici, en France. Et le bois que vous utilisez, il est issu de forêts durables ?
Alors, c'est un point sur lequel on travaille aujourd'hui. On a une certitude à 95%. C'est compliqué parce qu'en fait, on utilise un bois de plaquage qui est un petit peu la dernière roue du carrosse, si vous voulez. On a une certitude absolue. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la certification, sur une labellisation FSC ou PEFC qui sera très prochaine.
Laurent ?
Ça coûte cher, une carte comme ça ?
Ça coûte 3,95 € dans le commerce.
Donc c'est un peu plus cher qu'une carte traditionnelle.
C'est un peu plus cher qu'une carte traditionnelle, mais il y a des cartes en papier aujourd'hui, haut de gamme, qui valent jusqu'à 8 à 10 €.
550 modèles aujourd'hui, c'est ça dans le catalogue, vous dites. Collaboration, et Laurent l'a spécifié, avec des artistes. Vous cherchez des investisseurs aujourd'hui ? Vous avez besoin de vous développer davantage ?
On est à un stade où effectivement, pour faire plus de chiffre d'affaires, évidemment, on a besoin de faire plus de salons, plus de développement, plus de produits. Donc, on est en ce moment à la recherche de gens qui pourraient nous aider à aller plus vite.
Eh bien, ils peuvent nous appeler, évidemment, ces gens, s'ils vous entendent aujourd'hui, Jérôme, sur Europe 1.
Bien sûr, nous appeler au 39-21, c'est 50 centimes la minute, et puis nous écrire également sur Twitter, @ou #Europe 1.
Eh oui, car vous pourrez dialoguer d'ici quelques minutes avec nos invités dans La France qui bouge.
Europe 1, il est 13h17.
Et pourquoi ne pas ramener un sticker ou un magnet à coller sur le frigo ? C'est ce que fait Sochic Sographic et ça ne fait que commencer. A tout de suite.
Ah, les vacances, elles sont déjà loin derrière vous. Et vous avez bien fait d'en apporter un petit bout avec vous, une bonne bouteille, un flacon de lavande, des calissons, que sais-je, des souvenirs de vacances qui sont à l'honneur dans La France bouge aujourd'hui, Raphaël.
Eh oui, s'il y a bien un souvenir facile et pas cher qu'on aime ramener de nos lieux de villégiature, c'est le magnet. On le met sur le frigo, on le met aussi parfois dans les chambres de nos ados et on le regarde. Ça nous fait penser à nos vacances. C'est ce que nous propose de faire Sochic Sographic. Bonjour Anne-Louise Massoni.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça fait déjà 8 ans, dites-moi, que vous avez créé votre univers. Vous aussi, vous travaillez évidemment la carte postale et on va en parler. Mais ce qui nous a plu, ce sont vos magnets, vos porte-clés, ces petites choses finalement que vous avez voulu rendre plus élégantes. Racontez-moi comment est né le projet. On me dit dans le casque, on ne dit pas magnet, on dit magnète, c'est ça ?
Magnète. Alors en fait, à la base, je suis graphiste et illustratrice. Donc j'ai été diplômée d'une école d'art, l'ESAC Pellingen à Paris. À la suite de ça, j'ai travaillé dans des boîtes de production pendant un petit peu de temps. Je créais des illustrations et des motifs. Je trouvais dommage qu'elles restent sur mon ordinateur. Alors je me suis dit, je crée une entreprise pour valoriser ces designs. Et en 2011, j'ai créé Sochixographique. Alors j'ai commencé avec une gamme de papeterie. Oui. Et aujourd'hui, en 2018, on est spécialisé dans les objets souvenirs comme les magnettes. Et on personnalise beaucoup les illustrations.
Vous avez commencé, je crois, au tout début, avec des stickers pour téléphone, c'est ça? Parce que vous étiez inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis?
Alors, c'est pas tout à fait exact. En fait, en 2011, j'ai créé une première collection de stickers pour téléphone. C'était à la mode de personnaliser son téléphone. Mmh. Donc, c'était la première idée qui m'était venue. Donc, je trouvais des imprimeurs de stickers pour ensuite donc imprimer mes illustrations dessus. Et donc, j'ai créé un premier site internet où je revendais ces stickers. Et ensuite, j'ai trouvé des points de vente. Voyant le succès de ces produits, je me suis dit je vais faire d'autres produits et j'ai fait du coup le carnet et ensuite la carte postale et maintenant aujourd'hui le magnète.
Et alors comment est-ce que vous avez fait pour convaincre les musées, les lieux de patrimoine de vous laisser personnaliser vos produits ?
Alors déjà ils aiment beaucoup nos illustrations. Après, je travaille aussi avec une collègue qui s'appelle Marie, qui démarche aussi beaucoup les musées, les offices de tourisme. On nous contacte aussi beaucoup parce qu'en fait, les produits changent des magnètes que l'on voit d'habitude.
Là, j'ai par exemple le domaine de la Tortinière, Vallée de la Loire.
Exactement.
Le Grand Précigny, c'est ça, musée de la préhistoire.
Exactement. Donc soit on les contacte, soit les gens nous trouvent sur Instagram, parce qu'ils aiment nos produits, nos illustrations sur mesure, le style qui est très féminin, raffiné. Ça change des produits qu'on peut voir d'habitude dans les boutiques souvenirs, et ça intéresse beaucoup.
Elisabeth, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un vrai marché du souvenir, hein, du souvenir de vacances.
Bah oui, parce que rapporter un produit local et fabriqué dans la région, c'est un petit peu ce dont on a envie à chaque fois.
C'est prolonger les vacances.
C'est prolonger en quelque sorte les vacances et étirer ce temps. Et seuls les produits alimentaires, en général, sont fabriqués en France. C'est compliqué de trouver des produits locaux fabriqués en France. 9 Français sur 10 repartent de leurs vacances avec au moins un souvenir à la maison, avec des produits phares que l'on rapporte. Quelques exemples, donc là on a les magnettes, mais on a aussi le mug, le porte-clés, les bols bretons ou les fameuses boules à neige. Il faut savoir que les touristes étrangers ont dépensé plus de 50 milliards d'euros en France l'année dernière.
Que dit notre coach ?
Alors c'est vrai, vous l'avez dit vous-même Anne-Louise, c'est un peu girly. Hein. C'est vrai que spontanément, moi j'aime bien, parce que je trouve que ça c'est frais. Vous vouliez mettre du peps, hein, je crois.
Exactement.
Que vous avez dit ça. Moi il y a quelque chose par contre qui me frappe, c'est que c'est pas de l'art naïf. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites on ramène ça, mettons du Mont-Saint-Michel, vous peignez pas le Mont-Saint-Michel. C'est-à-dire vous avez une symbolique derrière, vous avez toujours des petites choses qui peuvent rappeler, une couleur, une forme, mais il y a une création artistique. Alors, je pense que ce qu'on perd peut-être en lien direct avec le souvenir, qui serait la photo, d'une manière ou d'une autre, produite du truc, on y gagne par contre beaucoup en art. C'est une démarche voulue, ça, je suppose.
Exactement. Quand je dessine, je mets beaucoup de poésie dans mes dessins, je rajoute des petits personnages, je regarde beaucoup aussi les photos des lieux, je prends les petits détails, et puis je mets une petite touche féminine pour faire des jolies illustrations. C'est très poétique. Je m'imagine en train de visiter le lieu
Ce sont des images évocatrices.
Exactement, hein. Voilà. Et puis il y a aussi des lieux que j'ai visités et j'ai fait aussi des collections pour eux. Donc ça, c'est beaucoup plus facile. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, par exemple. Ça me rappelle aussi les visites que j'ai faites.
Votre projet, Anne-Louise, il a mis des années à voir le jour. Mais en 2018, vous avez quand même réussi à vendre plus de 50 000 objets. L'ambition, quelle est-elle aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà des chiffres en tête, des envies en tête?
Ah oui, je pense qu'on va doubler ou tripler d'ici l'année prochaine.
Et donc embaucher?
Embaucher, exactement. Je voudrais embaucher Marie, ma collègue avec qui je travaille, qui s'investit beaucoup dans ce choc graphique. On a aussi la saison de Noël à préparer, qui va être une grosse saison pour nous. Et la saison de l'été aussi, prochain, va être une très bonne saison.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tout est fabriqué ici, chez nous, en France. Et c'est aussi ça, hein, la grosse différence quand on va investir dans un objet que vous avez fabriqué. C'est que vous avez pris le temps d'aller démarcher chaque fabricant pour être sûr que ce soit vraiment du Made in France à 100%.
Exactement. On a mis beaucoup de temps à trouver nos fournisseurs.
Vous en avez combien des fournisseurs aujourd'hui?
3 ou 4. Un peu dans toute la France, donc on met beaucoup de temps à les choisir, on veut des produits de qualité qui durent dans le temps, donc pour nous c'est très important que ça soit sur le sol français, aussi pour le circuit court, pour l'écologie et pour conserver l'emploi.
Elisabeth, on a une idée justement du nombre d'entreprises qui fabriquent français quand on parle souvenirs de vacances?
On estime à une trentaine de sociétés, hein, ce qui n'est pas énorme quand on parle de souvenirs de vacances. Vous avez évidemment les bérets au Pays Basque par exemple. La Tour Eiffel, elle est souvent fabriquée dans une usine en région parisienne. Vous avez les boules à neige près de Lyon, les bols bretons de préférence en Bretagne. Ces produits français sont plus chers, oui, mais on fait travailler nos artisans et notre savoir-faire.
Vous sentez, Anne-Louise, qu'aujourd'hui, il y a un retour finalement vers ce Made in France, vers ces produits. Quand quelqu'un achète quelque chose que vous avez réalisé, il est fier de dire c'est un produit français.
Bien sûr. Les boutiques de musées, les boutiques de souvenirs ou les châteaux viennent nous voir pour ça, parce que c'est des produits français. Et les gens veulent aussi acheter et se tournent de plus en plus vers des produits français. Donc, c'est vraiment très important. Et je pense qu'il y a un élan vers cette démarche-là.
Vous restez avec nous, on va continuer à parler souvenirs Made in France aujourd'hui sur Europe 1. La France bouge, Raphaël Duchemin et toute son équipe vous accompagnent jusqu'à 14h. On parle des souvenirs de vacances. Qu'avez-vous rapporté de vos voyages ou de votre dernier week-end en Normandie ou à l'île de Ré? Eh bien dites-le nous sur Twitter, @ou #Europe 1. Eh oui, c'est vrai que vous avez tous des petites vidéos, dites-le, prises dans votre smartphone. Je suis sûre qu'on va regarder, tiens, dans celui de Céline Dacosta dans un instant. Le château de sable des enfants à la plage, le pique-nique en famille, le week-end du 15 août. Et si ces meilleurs moments pouvaient être compilés pour vous? Bonjour Renan Noël.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé alors Clap and Clip, hein, pas Clip and Clap comme je l'ai dit tout à l'heure. Première plateforme qui propose aux particuliers un service de montage vidéo souvenir par des professionnels. Racontez-moi, c'est venu comment cette idée?
Alors c'est venu du fait que mon fils allait avoir 1 an et je me suis dit je vais compiler justement ses films souvenirs de sa première année d'existence. Et en fait, ça faisait déjà 2 ans et demi que je n'avais pas monté ma vidéo de voyage de noces.
Ah.
Je me dis, ça commence à s'entasser un petit peu, il faut que je trouve une solution. Un jour, je vois un petit panneau dans l'entrée de mon immeuble qui dit, on vous a installé la fibre optique. Et là, techniquement, je savais que c'était possible maintenant d'envoyer des grosses données.
Il y a du geek en vous, c'est ça?
Un petit peu.
Bon.
Et de l'artistique aussi.
De l'artistique,
en fait, il faut
oui.
Compiler les deux pour faire de la vidéo.
Donc, en juillet 2015, vous lancez?
Exactement. En juillet 2015, j'ai enfin trouvé un associé, développeur. Oui. On a fait exactement tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'entrepreneuriat. Toutes les erreurs, on les a commises. On s'est enfermé et puis au bout de 10 mois, on s'est dit « ça y est, notre produit est prêt ». Et on s'est lancé au pied des pistes de ski des Trois-Vallées pour dire aux gens qui avaient des caméras sur leur casque « voilà, 10 conseils pour bien filmer ». Et puis au dos du flyer, « commandez votre montage sur clapenclip.com ».
Résultat?
Zéro.
Zéro.
Zéro. La tête à Toto, absolument rien. Et ce qui est très pratique quand on fait zéro, c'est qu'il n'y a pas de doute. On ne peut pas chercher et se dire oh, peut-être que si, on ajuste. Non, rien. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça. Il faut trouver autre chose.
Donc ça fait flop et vous dites quand même qu'il y a un marché malgré tout. Donc comment est-ce que vous faites pour réorienter votre offre?
Alors, à ce moment-là, je suis avec mon associé. On est, par chance, dans la Silicon Valley. J'ai un séminaire avec l'ESSEC. Je fais un master spécialisé en entrepreneuriat à ce moment-là. Et on rencontre un gourou de la Silicon Valley, Carlos Diaz, qui nous dit...
Oui, qu'on connaît bien, oui.
Voilà. Et il nous dit, vous avez voulu faire bouillir l'océan, commencez par faire chauffer une casserole d'eau.
Donc, c'est lui qui vous aiguille.
C'est lui qui nous aiguille. Il y en a d'autres aussi qui nous aiguillent à ce moment-là. Et en fait, on se dit, qu'est-ce qui a marché jusqu'à présent? Et ce qui a marché à ce moment-là, c'est qu'on a eu un entretien assez long avec Voyage Privé. On a eu un premier échange avec Marco Vasco, qui est une agence de voyage sur mesure, qui commence à donner des caméras à ses clients pour ramener les vidéos, et ils ne savent pas encore quoi faire avec. Et on se dit, en fait, il est là notre axe. Ce sont les professionnels du tourisme qui ont besoin de contenu vidéo, qui ont besoin de contenu vidéo authentique. Et nous, on va pouvoir répondre à ce besoin.
Donc, ça veut dire que c'est Marco Vasco, finalement, qui va être votre premier client, qui va vous donner la chance de mettre les images des particuliers dans vos vidéos.
Tout à fait. Exactement. C'est Marco Vasco. Ils avaient démarré en interne le projet et on est arrivé pile au bon moment. Ouais, il faut avoir un petit peu de chance dans l'entrepreneuriat. Et il faut savoir le provoquer aussi.
Donc ça veut dire que les tours opérateurs, les spécialistes du voyage aujourd'hui, donnent des caméras à leurs clients ou leur disent, écoutez, ramenez-nous vos vidéos et nous, on se charge de vous faire un film souvenir.
Alors, on a assez rapidement réussi à convaincre Marco Vasco que ce n'était pas la meilleure approche, que c'était encore plus simple que ça, parce qu'une caméra, au final, bah, tout le monde en a une dans la poche, vous l'avez dit tout à l'heure.
Le smartphone.
Le smartphone, voilà. Et puis maintenant, il y a en plus Action Cam, il y a aussi les drones. Donc, ce n'est pas la peine de donner du matériel aux clients. Simplement, ils peuvent de proposer ce service-là à leurs clients qui, en échange d'un montage qui est en plus gratuit, puisque le client, le voyageur, ne paye rien, eh bien, en échange, il va céder ses droits à son agence de voyage, son tour opérateur, à son office de tourisme, qui va pouvoir réutiliser ses images et son image à des fins marketing.
C'est-à-dire que les tour opérateurs demandent à leurs clients de fournir les images et eux sont prêts à payer pour utiliser les images des clients.
Exactement. C'est gagnant, gagnant, gagnant.
La fameuse Laurent. Formule, si c'est gratuit, c'est vous le produit.
C'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Tout à fait.
Ça donne quoi? Ça donne un aspect un peu moins allez, papier glacé pour les agences de voyage, les tours opérateurs. C'est ça qu'ils recherchent avec.
On est l'anti-papier glacé, exactement. On est l'anti-papier glacé et on vient prolonger aujourd'hui quelque chose qui compte énormément dans le tourisme, c'est l'avis client. Et là, l'avis client, on le montre en vidéo et on sait qu'une image vaut bien plus que des mots.
Laurent? Une question.
Oui, parce que en fait, tout ça repose beaucoup sur le monde moderne, finalement, qui consiste à mettre le client au centre et à utiliser des situations réelles et recycler des images réelles. Il y a aussi une autre idée derrière, c'est l'idée du pro-am. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus d'amateurs sont meilleurs que des pros parce que par leur passion, par leur hobby et grâce à l'Internet, ils apprennent des techniques de montage ou autre. On voit ça avec des cuisiniers, on voit ça avec plein de choses qui font que les amateurs deviennent meilleurs que des pros. Et vous, finalement, c'est intéressant parce que vous inversez un peu la logique qui consiste à professionnaliser les amateurs. Ou du moins, vous poursuivez l'effet.
En fait, on leur donne simplement les clés de quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire du temps. Du temps pour monter leurs vidéos. Ça, c'était le problème de base que je suis parti pour résoudre. C'est de dire ben, on rentre chez soi, on a son disque dur qui est plein de vidéos, on ne sait pas quoi en faire.
Mais vous leur donnez quand même aussi des conseils, par exemple, pour filmer, ce genre de choses.
Exactement.
Si un type a une GoPro,
on fait des tutoriels.
Vous disiez, voilà.
On a un tutoriel, c'est comme 10 conseils pour bien filmer en voyage, 10 conseils pour bien filmer au ski. Et après, on poursuit ça avec nos partenaires qui font aussi leurs propres tutoriels ensuite, qui s'adressent directement à leur clientèle.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une autre entreprise française aussi hein, qui propose de transformer nos souvenirs en vidéo.
Oui, ça s'appelle Red LED, vous connaissez peut-être.
Je connais Nicolas, très
voilà,
bien.
Voilà, bah vous avez raison, le fondateur s'appelle Nicolas Ferrière. Elle existe depuis 3 ans, donc créée par ce Français. C'est une plateforme qui vous permet de faire réaliser un montage vidéo, quel que soit l'appareil utilisé. Il y a de la musique, avec eux aussi, on peut faire un brief artistique pour savoir comment on veut mettre en image cette vidéo. L'idée, c'est de capter ces petits moments de vie, des petits moments que les clients vivent sur l'instant, mais ne relèvent pas forcément, et aussi travaille par l'intermédiaire d'agences de voyage et des spécialistes du tourisme.
Ça montre bien qu'il y a un marché aujourd'hui hein, du souvenir en vidéo.
Il y a un marché, mais il y a encore un gros problème, c'est que les gens ne sont pas prêts à payer pour ce service-là. Et donc c'est pour ça que nous, on a pivoté, qu'on est parti vers les entreprises du tourisme pour lever ce frein du prix. On espère qu'un jour, les gens prendront conscience que ben, finalement, ils peuvent mettre, s'ils mettent 500 euros dans une caméra avant leurs vacances, ils peuvent mettre 50 euros ou 100 euros pour faire monter leur vidéo derrière, parce que c'est quand même dommage. On a la caméra, on a l'intention initiale, mais finalement, on ne fait rien derrière. Moi, j'étais comme ça. Et donc, effectivement, il y a un marché là-dessus, mais en B2C, mon sens, il n'existe pas encore. Et ça nécessitera encore un petit peu de temps et une évolution des mentalités, peut-être de la technologie aussi.
Aujourd'hui, vous vous êtes développé. Je crois que l'équipe est en train de s'étoffer. Vous serez 8 bientôt, c'est ça?
On sera 8.
Vous cherchez des profils?
Alors, on a trouvé.
Vous avez recruté?
On a trouvé, effectivement. Je cherchais un commercial. Finalement, j'ai décidé d'en prendre 2. Donc, on a trouvé et on va commencer à 8 fin septembre. Et c'est très, très excitant.
marché franco-français pour l'instant ou vous êtes déjà à l'international ?
On est à l'international sur d'autres segments de produits, parce qu'en fait, en allant voir les professionnels du tourisme, ils ont dit bah, c'est très bien ce que vous faites, mais nous, on a besoin d'autres formats de vidéos courtes pour les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on a attrapé d'autres clients comme Smartbox, par exemple.
Laurent, le coach.
Oui, dans une interview, vous aviez dit un truc marrant, Ronan, c'est valable pour tous les entrepreneurs. Vous avez dit, en fait, une des vertus cardinales, c'est la patience. C'est assez intéressant parce que Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, lui dit à l'inverse, si vous êtes satisfait du produit que vous lancez, probablement vous avez lancé trop tard. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, complètement. Je pense que j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Et là, on va lancer prochainement une nouvelle mouture de Clap & Clip. Et clairement, on va itérer. On va faire étape par étape et il y aura des choses qui seront un petit peu crades, comme on dit, qui ne se verront pas trop pour les utilisateurs, mais chez nous, voilà, ce sera, on va faire avec des bouts de ficelle, on va bootstrapper, mais fake it until you make it, aussi. Donc voilà, il faut faire semblant jusqu'à que ça marche.
On reste ensemble et on continue à tourner les pages de l'album Souvenir Made in France aujourd'hui sur Europe 1.
Et il est une très belle matinée, une très belle après-midi, pardon, il est 13h37.
Europe 1.
À vous de nous dire maintenant quel type de souvenirs vous aimez ramener. Venez aussi poser tiens, vos questions à nos invités. On vous attend, c'est La France qui bouge. À tout de suite.
La France bouge, on est encore un petit peu en vacances, hein, puisqu'on parle de vos souvenirs de vacances, Raphaël Duchemin.
Nous sommes avec Ronan Noël, PDG de Clap & Clip, première plateforme qui propose aux particuliers un service de montage de vidéos souvenirs par des professionnels, avec Anne-Louise Massoni, directrice artistique et illustratrice de la marque Sochixographique, les magnettes et les cartes postales, les carnets aussi, tout un tas de petits objets que nous on adore, et Jérôme Fischbach, cofondateur de Woody, entreprise qui fabrique des cartes postales en bois. On vous attend évidemment au 3921 et sur Twitter pour savoir ce que vous avez ramené. Est-ce qu'on a déjà, Céline, des petits messages?
Oui, alors RVF, hein, je ne sais pas son prénom, qui est parti au Baléares, qui a tenté de rapporter des produits espagnols. Alors, il nous dit pas évident, mais il a trouvé une jolie tasse issue de l'artisanat local et de l'huile d'olive. Et puis, on a aussi Vanessa. Elle a rapporté des bouteilles de vin et des savons à la lavande d'Ardèche et des fruits, dont 5 kilos d'abricots. J'en connais une autre qui, ce week-end, a fait le plein de fruits pour les confitures, n'est-ce pas, Raphaël?
Oui, les Mirabelles. Enfin, j'ai un débat avec les Laurent.
C'est Mirabelle ou prune?
Les ai ramassés effectivement en Normandie, donc j'ai un gros débat avec les Lorrains sur est-ce de la Mirabelle ou est-ce de la prune. Évidemment, ça pose problème. Laurent, est-ce que vous avez des questions pour nos invités sur ces souvenirs de vacances made in France? Est-ce qu'il y a finalement, il y a des choses très différentes, hein? La vidéo, c'est très technique. La carte en bois, ça c'est une partie plus écolo, plus nostalgique finalement. Oui. Est-ce qu'il y a un lien pour vous entre nos trois invités?
Me frappe, c'est que on est sur des choses très esthétiques. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Jérôme, mais je pense que dans les trois cas de figure, il y a une notion d'artiste derrière. C'est-à-dire que vous avez tous les trois, pour des raisons diverses, en voulant répondre à un besoin, alors qu'il peut être de préoccupations très différentes, vous avez tous mélangé l'entrepreneur et l'artiste. C'est d'ailleurs intéressant parce que je pense que les fondateurs ou les créateurs sont des artistes. Initialement, ils cherchent à résoudre un défi intellectuel plutôt que monter une organisation. D'ailleurs, c'est une question que j'ai à vous poser. Vous, en termes d'organisation, ce sont des petites entreprises. Vous avez très peu de gens qui travaillent avec vous.
Ronan Noël.
Alors, chez Clap & Clip, on n'est pas très nombreux. Et le but, c'est de permettre aux monteurs de travailler chez eux. Puisque ce sont eux, en fait, les vrais artistes.
Oui, c'est un écosystème, finalement.
C'est un écosystème. On essaie, entre guillemets, d'ubériser un petit peu le montage vidéo. Et donc, le monteur, il travaille de chez lui. Et c'est ça, l'intérêt aussi.
Nous, on est une petite structure. Il y a trois personnes à l'usine de fabrication.
Je vais vous demander peut-être de vous rapprocher un tout petit peu avec votre chaise du micro, parce que sinon on vous entend un peu loin.
Il y a trois personnes à l'usine, et sinon on est deux personnes pour gérer donc, les commandes et la création graphique.
Anne-Louise Massoni.
Et nous, on est principalement deux, donc moi et Marie, ma commerciale aussi qui s'occupe de la relation client et puis de tout ce qui est réseaux sociaux. Et je travaille aussi avec deux autres commerciaux qui sont freelance aussi. Donc on est vraiment une petite structure.
Elisabeth, il existe des entreprises qui proposent seulement des cadeaux, des souvenirs made in France. Je crois que vous en avez trouvé quelques-unes.
Oui, hein. Par exemple, Passion France. Passion France, c'est le spécialiste du cadeau, mais seulement fait en France.
Ils ont décidé, ils ont une bonne idée, ils ont décidé de regrouper tous les petits cadeaux que l'on recherche, mais il faut qu'ils soient labellisés français. Alors ils sélectionnent, ils choisissent des partenaires dont ils sont sûrs qu'ils fabriquent dans des usines françaises. On trouve évidemment des souvenirs comme des porte-clés, des manettes, des bols, etc.
Moi, je voudrais savoir, vous ambitionnez de vous développer, vous l'avez dit tout à l'heure, Anne-Louise, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire ailleurs qu'en France, avec des produits qui finalement sont aujourd'hui fabriqués chez nous ? Est-ce que vous avez déjà l'idée de vous exporter ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai une idée en tête, c'est d'aller dans les pays frontaliers, l'Allemagne, la Suisse, aussi l'Angleterre, pourquoi pas les États-Unis. Mais à ce moment-là, il va falloir trouver des entreprises locales dans ces pays, avec des natifs, des commerciaux natifs, pour pouvoir...
pour respecter votre cahier des charges.
Exactement, voilà. Ils connaissent bien le marché, et du coup, ce sera plus facile de travailler comme ça.
Même chose pour vous, mais vous aviez répondu déjà, hein, l'idée est d'aller à l'étranger. Est-ce qu'on peut trouver une fabrication comme on l'a en France aujourd'hui ?
Il existe quelques sociétés qui ont cette technologie, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a une aux États-Unis, une au Canada et une dans les pays de l'Est. C'est vraiment, je crois que les sociétés qui maîtrisent cette technologie aujourd'hui, il y en a 4 ou 5 dans le monde. Donc voilà, mais c'est un savoir-faire pour l'instant, en tout cas avec notre marque, qui est purement français.
Laurent ?
Oui, moi j'ai deux remarques de coach. C'est-à-dire, la première, c'est que, vous savez, c'est toujours l'idée de préserver son isolation concurrentielle. C'est-à-dire le moment où vous allez avoir des concurrents qui vont venir sur une idée simple et intelligente que tout le monde comprend. Donc ça, c'est un premier point qui me frappe dans vos expériences, c'est que ça, c'est facilement copiable aussi à un moment, et ça ne nécessite pas forcément beaucoup de moyens. La deuxième idée, c'est... C'est quelque chose qui me frappe par rapport à ce que vous avez fait, par exemple, prenons l'exemple de Ronan. Est-ce que vous avez l'idée de faire un concours ou des Césars de la meilleure vidéo, ce genre de choses ? C'est-à-dire, comment vous animez votre idée au-delà du produit ?
On l'a fait cet hiver avec la station de ski des Ménuires. Ouais. En fait, on a organisé un concours de celui qui allait nous fournir les meilleures rushes vidéo pour lesquelles on pourra faire la meilleure vidéo. Et du coup, y a des gens qui se sont bien appliqués, qui ont bien joué le jeu, qui se sont mis en valeur. Et on sent que les gens sont inspirés aujourd'hui par les influenceurs. Ils se mettent en valeur, ils se filment plus. Avant, on filmait devant. Maintenant, on filme en selfie, on se filme, on se met en valeur. Et en fait, c'est ça aussi qui importe dans les souvenirs en vidéo, c'est d'être présent dessus, sur l'image. Parce qu'on vieillit et qu'on va changer.
Quand j'ai annoncé hier le sujet de l'émission, le souvenir de vacances, il y a Macronite 2017 sur Twitter qui m'a envoyé un message en disant un peu étrange comme thème de rentrée, alors que les gens reviennent justement de leurs vacances. Il fallait le faire en juin, avant leur départ. Est-ce que vous pensez justement qu'on a, quand on part en vacances, déjà l'idée d'acheter quelque chose ou qu'au contraire, on marche au coup de cœur, Anne-Louise Massoni ?
Par exemple, moi, quand je suis en vacances, j'adore à visiter des monuments ou des châteaux. Et après, moi, j'adore aller dans les boutiques, souvenirs. Et forcément, on craque sur un petit objet qu'on va mettre chez soi.
La boule à neige d'Elisabeth.
Exactement. Moi, je ramène, maintenant, elles sont très design et super jolies. Du coup, moi, j'en ramène. Je ramène aussi des manettes ou des cartes postales. Voilà.
Même question pour vous, Renan, pour vous, Jérôme.
Je suis fan des objets souvenirs. Je ramène des boules à neige, je ramène.
Donc vous vous laissez tenter une fois que vous êtes sur place.
Je me laisse tenter, mais en fait, je pense que tout le process de réflexion des trois personnes assises ici, c'est que, en fait, on dit toujours, est-ce qu'un Asiatique, parce que ça m'est remonté, l'info m'est remontée plusieurs fois, est-ce qu'un Asiatique qui vient de Chine aujourd'hui ou de Taïwan a envie d'acheter une tour Eiffel qui est faite à Taïwan ou en Chine et qui est vendue à Paris ? Je crois pas. Je crois qu'en fait, tout l'intérêt d'avoir un souvenir français made in France pour le pays qui est le plus visité du monde, c'est qu'il soit fait en France, parce qu'on a besoin, que ces souvenirs représentent notre pays et on n'a pas envie que ça soit... un produit qu'on pourrait trouver n'importe où, en fait.
Alors justement, la fameuse boule à neige, parlons-en, Elisabeth, fabriquée en France, évidemment. Il y en a.
Il y a deux entreprises françaises qui fabriquent les boules à neige. Vous avez l'entreprise JLK France, elle fabrique depuis 1969. Elle est située dans l'Ain, à Meillonnas. Ces deux entreprises, elles sont au pied des Alpes. Hein. Donc il y a celle-ci. Et il y a aussi la maison Bruot à Oyonnax qui existe depuis 1961. Alors très souvent, la particularité de la fabrication des boules à neige, c'est que, pourquoi ça dure, c'est que ce sont des petites séries, ce sont souvent du sur-mesure, et paraît-il que la composition de leur neige est particulière parce que la neige retombe bien plus lentement que les boules à neige des Chinois. Donc voilà, notre particularité.
Ils ne sont pas au pied des Alpes quand même à cause de la neige.
C'est possible, j'en sais rien. Mais en tout cas,
c'est peut-être comme ça qu'ils ont trouvé l'inspiration.
Et L2, ces deux entreprises fabriquent quand même plus de 180 000 boules à neige chaque année.
Et oui, c'est encore la preuve que nous pouvons fabriquer ici, chez nous, en France. Et vous en êtes tous les trois de très beaux exemples. Merci d'avoir fait cette première émission cette rentrée.
Et une belle après-midi, là j'en suis sûre. Il est 13h47.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, bien sûr. Dans deux minutes, vous allez découvrir une entreprise qui va bien. C'est Biotop, sa passion, la nature. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
C'est l'heure de retrouver l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien aujourd'hui, c'est Biotop. Bonjour Frédéric Melki.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de Biotop, qui existe déjà depuis 1993. Je n'en revenais pas quand j'ai vu la date. Alors Biotop, peut-être que certains ne connaissent pas, on va leur dire ce que c'est, hein, tout simplement. C'est d'abord une histoire de passionnés, passionnés de la nature, quatre amoureux de la nature qui veulent agir et défendre. C'est comme ça que ça commence.
Exactement. Ça commence par quatre personnes, quatre amis qui se connaissaient depuis longtemps et qui travaillaient dans des domaines tout à fait différents. Moi-même la pharmacie, d'autres travaillaient dans la distribution de livres, d'autres travaillaient servaient des cafés au CNRS et puis le dernier était au service militaire.
Bon, à l'époque, donc rien à voir au départ.
Absolument rien à voir, mais on se retrouvait tous autour de la passion, de l'amour de la nature. On faisait des projections toutes les semaines où chacun présentait un petit peu ses trouvailles, ses photos sur tout type de faune et de flore.
Mais vous auriez pu faire une association ou simplement rester entre amis. Comment est-ce que vous vient l'idée d'une entreprise ?
Alors justement, voilà, on n'a pas voulu faire une association parce qu'on souhaitait vivre de cette passion. À l'époque, on classifiait de manière très précise les choses. On faisait du travail c'était alimentaire, donc on faisait quelque chose, par exemple on vendait des boîtes de médicaments, ce qui était mon cas, et l'intérêt pour la nature, la spécialité sur la faune et la flore, soit on est dans un circuit académique, on travaille à l'université, soit c'est du loisir. Et nous on a voulu, et ça a été vraiment mon idée de base, on a voulu créer un métier nouveau pour que ces passionnés, ces gens qui ont plein de compétences, qui ont des connaissances encyclopédiques, puissent non seulement aimer ce qu'ils font et faire de leur passion,
vivre de leur passion.
Vivre de leur passion. Que ce soit un métier qui soit rémunéré pour cela et qui n'ait pas besoin d'aller faire des cafés au CNRS, par exemple.
Donc, quand vous débutez, 1993, votre idée, c'est de proposer aux collectivités, par exemple, ou aux entreprises, d'intégrer la biodiversité dans les projets.
Absolument. Alors, il y a une loi qui est passée en 1976 en France, ce qui est très ancien. C'était une des premières lois environnementales au niveau mondial, obligés à faire des études d'impact sur l'environnement, qui définissaient des listes d'espèces protégées. Mais cette loi, en 93, était assez mal appliquée, pourrait-on dire. Et moi, je me suis demandé pourquoi. Tout simplement, une des réponses que j'ai pu apporter, c'est parce qu'il ne manquait de praticiens. Il n'y avait pas de gens capables de faire ces études d'impact de manière à la fois compétente, mais aussi de manière indépendante et de manière objective. L'environnement, c'est d'ailleurs en partie toujours le cas, un sujet polémique.
Alors c'est important ce que vous dites, parce que justement la difficulté c'est de ne pas verser dans le débat politique et polémique. Est-ce que ça a été compliqué justement de convaincre et de montrer que oui c'était possible ?
Ça a pris un certain temps, puisqu'on a été extrêmement précurseurs.
Hein, oui, c'était avant la prise de conscience.
Bien avant, c'était presque 10 ans avant. On va dire que les choses ont, au niveau prise de conscience un peu plus politique, plus générale, c'est au début des années 2000 qu'il y a eu vraiment une accélération assez forte de ces sujets-là. Nous, on était pratiquement 10 ans avant. Et ça n'a pas été difficile en soi, mais ça a pris du temps et ça a démarré très lentement.
Donc, vous faites quoi dans ces entreprises, dans ces collectivités ? Vous leur dites, attention, le tracé que vous avez identifié, vous ne pouvez pas le faire passer par là parce qu'il y a telle ou telle population à protéger ?
Entre autres, alors on ne leur dit pas « vous ne devez pas » parce que ce n'est pas notre rôle.
Il vaudrait mieux.
Voilà. Par exemple, vous avez un projet d'aménagement, que ce soit une route, que ce soit un projet d'énergie, etc., vous devez faire une demande d'autorisation, un permis environnemental, en faisant une étude d'impact sur l'environnement. On va vous aider à améliorer votre projet pour qu'il soit le meilleur possible, pour qu'à la fois vous puissiez faire votre projet, obtenir vos permis, et que ce projet soit le moins nuisible, voire qu'il apporte quelque chose pour l'environnement.
Notre coach, Laurent Choin.
Les tunnels à crapauds, c'est vous ?
Alors, on ne les a pas inventés, puisque ça préexistait, mais oui, on en préconise un certain nombre. Oui.
Et il y a un deuxième truc qui me frappe, c'est que vous avez aussi une très belle maison d'édition.
Oui, tout à fait.
Je pense que ça, c'est l'arme fatale, parce que finalement, votre leadership d'influence va venir par là.
Et c'est tout à fait vrai.
C'est l'idée d'ailleurs.
C'est l'idée. L'idée, c'est de créer une entreprise transversale. On n'est pas dans un secteur d'activité, l'édition, le livre, la communication, l'ingénierie. On est sur une thématique qui est la biodiversité, la nature. Et là, on traite tout ce qui tourne autour de ce sujet-là.
Le partage des connaissances, c'est
exactement
la clé.
C'est fondamental. C'est fondamental. On ne peut pas faire des études scientifiques qui restent dans des cénacles doctes où tout le monde se parle en latin. On doit partager. Et l'environnement réussira. La nature sera protégée autant que faire se peut. Si et seulement si on a une objectivation des choses et si on fait participer tout le monde.
Vous êtes présent dans 40 pays aujourd'hui. La France, ça reste forcément votre port d'attache.
Tout à fait. Alors, on n'est pas présent dans 40 pays. On travaille en plus de 40 pays. On a 17 établissements en France métropolitaine, 3 en Outre-mer.
Et 240 collaborateurs quand même.
Voilà, 240. Même si on compte les sociétés dans lesquelles on a des participations, on dépasse les 300 et les filiales internationales.
Vous faites 20 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, Biotop. Oui. La suite, c'est quoi, dites-moi, Frédéric Melki?
Ça, c'est une bonne question. Bon, on va continuer. Hein. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a connu en France, où on a finalement pas mal évangélisé sur le sujet, est en train de se produire dans le reste du monde. Jusqu'à présent, on a aménagé le territoire de manière indépendante de ces questions écologiques. Pour simplifier, on cassait tout et on ravageait tout. On continue à le faire en partie. Mais depuis quelques années, on voit se passer le même phénomène que l'on a connu en France, c'est-à-dire une prise de conscience, une pression sociale et les politiques, les décideurs qui réalisent pourquoi là, il est fondamental de préserver la nature, pas seulement en tant que telle, en soi c'est déjà important, mais aussi pour le bien-être de l'homme.
Vous diriez qu'on prend mieux soin de ce que l'on connaît ?
Ça, c'est certain. Ce qu'on ne connaît pas, on le piétine et on ne s'en rend pas compte. Vous vous rendez compte, si vous marchez dans l'herbe, si vous voyez un petit animal passer, vous n'allez pas l'écraser. Si vous ne le voyez pas, vous l'écrasez.
Le crapaud sur l'autoroute. C'est bien.
Et le crapaud sur l'autoroute, voilà.
C'est l'entreprise qui va bien, c'est Biotop 1993. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous beaucoup.
Il est 13h58. Et c'est déjà l'heure de se quitter. On se retrouve évidemment dès demain midi. Merci à Laurent Choin qui était notre coach aujourd'hui.
Un
Elisabeth,
plaisir.
Rendez-vous
à demain
pour la France Bouge Academy, la solution, votre dossier du jour consacré demain au logement étudiant. Vous allez voir, on a trouvé de quoi les aider. Vous saurez tout à partir de midi. Europe 1.